je suis dans le foyer du festival Jean Eustache à Pessac, en présence de Jérôme Prieur qui vient d'arriver. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est dans le bois parce qu'il y a une file d'attente, mais ça s'avance. Ça rappelle un peu les magasins de rationnement à l'URSS. Ouais. Mais enfin, nous, on est
là. Non, mais ça fait très plaisir d'avoir un festival dans lequel il y a beaucoup de public et vraiment affluence. Donc ça, quand on est cinéaste, ça fait vraiment très plaisir.
Et puis ce qui doit vous faire plaisir, c'est qu'il y a une dimension scolaire avec des projections destinées aux lycéens, aux collégiens. Et on voit qu'il y a une grande fréquentation aussi. Donc ça les éveille à un certain type de film.
C'est pas confidentiel et ça s'adresse à toutes sortes de publics. C'est vraiment bien.
Alors vous venez en habitué, hein, vous venez à Pessac. Ce n'est pas la première fois. Et hier soir, on a assisté à la projection Les Jeux d'Hitler, donc les fameux Jeux Olympiques de 1936. Il y a également une autre projection de votre film de cette année, 2018, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler. Et donc hier soir, il y avait une réaction du public, enfin, même à l'accueil, déjà quand vous êtes arrivé, il y a une attente. Ils sont curieux de voir quelle est votre démarche, votre façon de montrer la réalité dont on connaît la suite. Mais là, vous avez une démarche un peu anachronique parce que vous nous montrez les prémices, comme si on assistait à la préparation, à l'émulation autour de ces jeux.
Il y a deux questions là dans votre remarque. Il y avait une attente. Ben, l'attente, elle s'est concrétisée d'une façon toute simple, c'est que le film devait passer dans une salle de 150 places et que finalement, étant donné le nombre de réservations dès le milieu de l'après-midi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de la plus grande salle du cinéma Jean Eustache à Pessac, où il y avait donc 350 personnes. Donc quand on fait des films, on est vraiment heureux d'être attendu, parce qu'on n'est pas toujours heureux de la manière dont les chaînes de télévision avec lesquelles on travaille traitent les films, les diffusent, les programmes. Là, pour être un peu ironique, j'ai dit hier soir que j'étais heureux que le film soit montré à une heure de grande écoute au festival de Pessac. À 19h, voilà. On va peut-être attendre là.
Nous avons fait une petite interruption parce qu'il y a l'appel pour les projections en salle. Donc, Jérôme Prieur, vous me disiez
qu'il était temps que je réponde à votre question. Votre question, c'est l'attente du public devant un film qui raconte en réalité la manière dont le nazisme s'est propagé dans la société allemande. Et rien de tel pour raconter cette histoire que d'avoir affaire aux témoins eux-mêmes. Alors les témoins sont plus vivants, ou il y en aurait très peu, mais les témoins que j'ai découverts, c'est des témoins qui se sont exprimés en réponse à une enquête de l'université de Harvard à l'été 1939, enquête qui s'adressait à tous les Allemands et les Autrichiens, accessoirement, qui avaient réussi à fuir le Reich entre 1933 et 1939, et qui donc, une fois sauvés, ou temporairement sauvés, ou provisoirement sauvés, ont raconté, à des fins scientifiques, pour cette enquête scientifique universitaire, qui ont raconté comment était leur vie avant et après le 30 janvier 1933, c'est-à-dire avant et après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et donc, il y a eu près de 300 personnes, hommes et femmes, juifs, catholiques, protestants, sans religion, personnes de toute opinion politique, il y a des conservateurs, il y a des communistes, il y a des syndicalistes. Et donc cette enquête, elle est absolument formidable, d'une part parce qu'elle est très méconnue, je ne dirais pas qu'elle est inédite, mais presque, elle est très méconnue, elle est très ample, cette enquête, ça recouvre à peu près, 20 000 pages de dépositions, de témoignages, et elle a surtout l'immense mérite de nous faire voir, à travers les gens qui l'ont vécu eux-mêmes, comment dans la vie quotidienne, dans la vie privée, dans la vie de tous les jours, les nazis prennent le pouvoir sur une société démocratique jusque-là. Donc prendre le pouvoir, c'est la première phase du film. La première partie du film est consacrée à la prise du pouvoir, à la conquête du pouvoir, parce que c'est ambigu de dire la prise du pouvoir. C'est comme si les nazis, et Hitler en particulier, étaient arrivés au pouvoir au terme d'un coup de force. Il n'y a pas eu de coup de force, c'est-à-dire qu'il y a des menées putschistes avant que Hitler n'arrive au pouvoir, mais en janvier 1933, c'est le président de la République, le maréchal Hindenburg, qui appelle Adolf Hitler à former un gouvernement. Donc c'est de la manière tout à fait légale. Sauf qu'ensuite, une fois dans la place, les nazis utilisent tous les moyens en leur possession pour bloquer, geler les structures démocratiques du pays, c'est-à-dire l'existence des partis, l'existence des syndicats, l'existence de la presse, et pour régenter complètement toute la société allemande, tout en se proposant de rééduquer ceux qui ne pensent pas comme eux, et donc sont enfermés, sont interdits de séjour, les communistes, les socialistes, même les gens du Zentrum, du Parti catholique du centre. Et donc petit à petit, il y a un parti unique qui prend le pouvoir en Allemagne et qui va régner sans partage jusqu'à l'effondrement du Reich en 1945. Mais on assiste vraiment à la manière dont une société comme celle qu'on connaît aujourd'hui, avec ses faiblesses, sa vulnérabilité, tombe aux mains d'une bande d'extrême droite qui utilise tous les moyens pour détruire toute forme d'opposition. Donc ces témoignages sont très intéressants parce que ils nous font entendre la voix d'opposants de tous les jours. Alors, ces opposants, ils parlent à voix basse, hein, ils confient leurs impressions ou leurs souvenirs à leur journal, à ces formes d'autobiographie. Mais ils nous montrent comment il est toujours possible un peu de résister à son petit niveau, ou comment, au contraire, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que on écoute la loi du plus fort, on est docile, on est asservi, on est obéissant, on est grégaire, et c'est la meilleure manière, pense-t-on, de d'être épargné. Enfin, mais en réalité, on se rend compte que c'est tout le contraire qui se passe. On est épargné, oui, temporairement, mais et donc le film, il montre ça, il montre comment, comme un virus, le nazisme s'empare de tout un corps social.
Comme une pandémie, presque.
Comme une pandémie, voilà.
Et ce qui montre aussi, ce qui est un bon rappel quand même dès le début du film, c'est qu'Hitler, il est désintéressé, il n'a pas vraiment de conviction par rapport au sport, il n'est pas sportif. Et puis il a ses conseillers qui vont lui dire que c'est important d'accueillir. Là, je mentionnais le film qui a été projeté hier soir, Les Jeux d'Hitler. On rappelle qu'Hitler, il ne voyait pas tellement l'intérêt d'accueillir les Jeux. Il est en fait poussé dans cette optique par ses conseillers pour que justement la grandeur de l'Allemagne soit montrée sous un jour positif, un jour accueillant. Et c'est ce qui marque, c'est-à-dire que les quelques spectateurs qui sont venus de l'étranger, ils sont pas si nombreux qu'attendus. Ils découvrent Berlin presque comme un pays de cocagne, avec toute une infrastructure qui montre. Évidemment, on a effacé les inscriptions anti-juives sur les magasins, et ça a l'air d'être une atmosphère bon enfant.
Oui, 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 c'est une ville. C'est une ville Potemkin, comme on dit, c'est un décor. Et donc, oui, j'ai découvert qu'on avait, appris à la police berlinoise à parler plusieurs langues, que les kiosques à journaux sont alimentés à nouveau. On veut faire croire qu'il y a une liberté de la presse. Comme vous le disiez, toutes les inscriptions antisémites sont effacées. Mais tout ça, ça va être le temps d'une parenthèse enchantée, faussement enchantée, le temps des Jeux. Mais aussitôt après, la persécution va recommencer et les choses seront comme avant, en pire. Mais donc ça a été une opération, vraiment, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que les Jeux Olympiques ont été pour l'Allemagne nazie une vitrine. Une vitrine pour montrer que l'Allemagne était régénérée, était sortie de l'abominable défaite de 1918, et que grâce aux nazis, aux national-socialistes, avec le soutien d'ailleurs plus ou moins délibéré du comité international olympique, de montrer grâce aux Jeux olympiques que l'Allemagne retrouvait sa place dans le concert des nations, que l'Allemagne de Hitler était un pays fréquentable. Fréquentable, la preuve, c'est que ont été reçues les équipes des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse, du Japon, du monde entier.
Sauf
l'Espagne, qui est en proie à la guerre civile, à l'initiative des franquistes. sauf l'Espagne et sauf l'URSS qui est le pays à ce moment-là ostracisé, ennemi de l'Allemagne nazie. Mais sinon, tous les pays du monde sont représentés, tous les pays du monde. Alors, oui, ça m'a surpris, je le raconte dans le film, j'ai écrit un livre aussi pour développer ce que je n'avais pas pu dire dans le film. Ce qui m'a surpris, en effet, c'est qu'il y a une audience internationale très importante, mais grâce aux moyens de communication de masse, il n'y a pas encore la télévision, il y a des expériences de télévision en direct à Berlin, mais grâce à la presse écrite et grâce surtout à la presse radiophonique. Il y a une écoute absolument extraordinaire, une audience absolument extraordinaire de ces jeux à travers le monde. C'est plusieurs milliers d'émissions. Mais sinon, le public, il y a un public qui va être galvanisé par les jeux et les prouesses réelles des sportifs allemands, qui ne sont plus du tout des amateurs, mais des sportifs professionnels, contrairement à l'idéal olympique. Ceux qui vont être les premiers subjugués par le succès des jeux de 1936, ce sont les Allemands eux-mêmes qui se retrouvent. Qui retrouvent leur fierté, leur honneur, grâce à leur chancelier, grâce à Hitler. Cela fédère véritablement le peuple allemand autour de Hitler. Bon, en revanche, il y a moins de visiteurs étrangers que prévu, et puis il n'y a pas de grandes figures de la vie politique ou de la vie diplomatique étrangère. Il y a les ambassadeurs, mais sinon il y a peu de chefs d'État, sauf les pays très proches de l'Allemagne nazie, comme l'Italie ou la Bulgarie ou le Japon. Mais bon, comme si tout de même les politiques du monde entier, d'Europe, des États-Unis, bon, sentaient bien, parce qu'ils sont avertis par leurs ambassades, sentaient bien que l'Allemagne n'était pas tout à fait le pays fréquentable qu'on voulait bien le dire. Mais je crois que ça a fait beaucoup pour endormir la méfiance des responsables politiques et la méfiance des peuples qui voulaient plutôt fermer les yeux et se boucher les oreilles plutôt que de voir prospérer l'idée qu'une seconde guerre mondiale allait déchirer le monde. La guerre de 14 s'est terminée 18 ans avant les Jeux de 36. Il n'y a pas beaucoup d'Européens, pas beaucoup de Français qui ont envie que ça recommence, hein, on les comprend. Et donc ça a eu des conséquences néfastes. Au lieu de bloquer tout de suite la prise du pouvoir sur l'Allemagne par les nazis, ben on a laissé faire, on a regardé ce qui se passait sans imaginer les proportions terrifiantes que ça pouvait prendre.
Alors justement, je rebondis sur vos propos, vous avez anticipé sur ma question, c'est est-ce que ces jeux, avec le bon déroulement, et puis il y avait quand même une atmosphère assez... Le village olympique a l'air magnifique, bon, il manque les baignoires qu'Hitler a fait retirer, mais il y a un accueil, il y a même des demoiselles enseignantes de sport qui viennent donner leur corps aux joueurs internationaux, aux sportifs. Donc il y a tout un accueil particulièrement chaleureux. Est-ce que ça a un petit peu anesthésié, endormi, l'éveil des autres nations par rapport au spectre du nazisme qui va croissant et la menace de la guerre ?
Anesthésié, le mot juste, oui, je crois que... Ben, les ambassadeurs de cette vitrine, de cette belle vitrine de l'Allemagne, ont été les sportifs eux-mêmes, bien sûr. Puis les sportifs, ils voyagent à travers le monde, donc ils ont dû répandre cette bonne image de l'Allemagne. Mais ce qui est frappant, c'est par exemple de voir que Jesse Owens, qui est ce sportif admirable, qui a 3 médailles d'or, il est plutôt content de son séjour en Allemagne. Il est accueilli très chaleureusement par les Allemands à son arrivée, bien que noir, bien que nègre, selon la terminologie raciale nazie.
On lui demande des autographes, d'ailleurs.
On lui demande des autographes. Il est choyé, il est fêté, comme d'autres athlètes afro-américain, hein. Non mais comme d'autres athlètes afro-américains, oui, comme les athlètes blancs, mais et ce qui est terrible pour cet homme, c'est le retour aux États-Unis. Parce que le retour aux États-Unis, il est à New York, célébré par des scènes de liesse sur la 5e avenue, comme Lindbergh a pu en connaître. Mais le grand désespoir de sa vie, la grande humiliation, c'est qu'il ne sera jamais reçu par le président des États-Unis, Roosevelt. Pourquoi ? Parce que Roosevelt est en campagne électorale et que la ségrégation est toujours en vigueur aux États-Unis et que c'est un noir. Donc... tant mieux s'il remporte des médailles, mais c'est tout, n'allons pas plus loin. Et donc, ça montre aussi que le monde, à cette époque, le champion du monde libre que pourraient être les États-Unis, s'accommode assez bien, finalement, du fait qu'il y a un certain nombre de mesures antisémites en Allemagne. Donc on s'en prend aux Juifs, mais eux peuvent comprendre ça parce qu'on s'en prend chez eux, on s'en prend aux Noirs. Enfin, il y a une espèce... Oui, c'est comme si c'était de la politique intérieure. Voilà.
Pour revenir aux préparatifs, même si Hitler n'était pas convaincu de ces Jeux, il y a eu toute une préparation au niveau architectural déjà, du stade. Et il y avait ce renouement avec l'Antiquité, avec ce que ça représentait, puisque c'est important pour la race aryenne.
Hitler, il n'est pas tellement d'accord au début, mais à mon avis, ça passe assez vite, parce qu'il a quelqu'un auprès de lui, qui est Joseph Goebbels, qui est le jeune ministre de la propagande, et lui, il comprend aussitôt tout le bénéfice qu'il peut tirer de cette opération. Et donc, Hitler est très vite convaincu par Goebbels. Et donc, en effet, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier, notamment architectural, parce que le stade de Berlin, le stade qui existe à l'époque, n'est pas assez grand. Donc, il faut l'agrandir. Il faut l'agrandir et en faire un stade capable de recevoir des milliers de personnes. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'architecte qui est chargé de l'agrandissement du stade, lui, il raisonne il raisonne en termes modernes, c'est-à-dire que il veut que ce bâtiment soit une espèce d'apothéose du béton, du verre, de l'acier. Et jusqu'à ce que Hitler, visitant le chantier, réalise que de ce stade, des murs du stade, on va voir ces murs de béton, et il demande au jeune espoir de l'architecture allemande de l'époque, qui va parler de lui ultérieurement, qui est Speer, de trouver un système pour cacher ce béton. Et donc on cache ces murs de béton par un paravent, une façade en pierre de taille, à l'antique, à l'ancienne, parce que dans le rêve nazi, l'Olympe, les Grecs de l'Antiquité sont les ancêtres des athlètes ariens de la Nouvelle Grèce que sont les Germains, les Allemands. Il y a cette espèce de folie furieuse comme ça, de la réécriture des origines, la mégalomanie, et puis de la réécriture de l'histoire qui s'exprime à travers les Jeux Olympiques. Il y a un lien direct pour les nazis entre les Grecs de l'Antiquité et les Allemands de l'Allemagne régénérée par le national-socialisme. Enfin, avec des guillemets, bien entendu.
Alors, Jérôme Prieur, vous avez rappelé Goebbels et son rôle pour la propagande. Dans la propagande, il y a un rôle aussi important qui est joué par Leni Riefenstahl, qui est sollicité. On lui accorde 4 fois le budget prévu pour réaliser un film autour des Jeux Olympiques. Et elle est, on le disait hors micro, très novatrice dans sa technique, dans sa façon de filmer, soit dans des fosses quasiment directement dans le stade, soit avec une sorte de travelling qui est sans caméraman. C'est assez extraordinaire.
Je crois que le succès jusqu'à aujourd'hui des Jeux Olympiques de 1936, est dû en grande partie au film de Leni Riefenstahl, qui pour nous s'est substitué à...
Olympia.
Oui, Olympia, qui pour nous s'est substitué à la réalité, comme si elle avait éternisé, magnifié la réussite extraordinaire de ces Jeux Olympiques, et comme si elle en avait fait un événement avant tout sportif et très peu politique. En revoyant le film, j'ai été frappé de voir que on y voit très peu Hitler, on y voit peu d'uniformes, on y voit peu de croix gammées. Il y en a, hein, tout ça existe. Mais comme si elle cherchait à dissimuler le fait qu'elle, qu'elle travaille pour le Reich, qu'elle travaille pour l'image du Reich, et comme si avec tout son talent, elle a un grand talent, comme si elle exprimait un point de vue neutre. Et elle n'exprime pas du tout un point de vue neutre. Elle est en accord total, ou presque total, parce qu'elle ne partage pas l'idéologie raciale de d'Hitler, de Goebbels et tout ça. Et par exemple, elle n'a pas peur de filmer les athlètes noirs. Hein.
Mais presque un côté sculptural.
Elle est sensible au côté sculptural, esthétique, comme ça, des sportifs. Mais pas seulement. Il y a des sportifs qui ne sont pas très beaux, mais qui sont des athlètes, qui sont musculeux, qui sont, et donc le corps la fascine, voilà. Mais ce qui, il y a aucun doute que elle a pu utiliser, elle a eu la chance inouïe de pouvoir utiliser le grand stade de Berlin, l'Olympiastadion, comme un studio, et donc elle a pu mettre ses caméras, creuser des fosses, vous le disiez, mettre des rails, avoir des caméras suspendues, refaire certaines scènes qu'elle n'avait pas pu filmer lors des épreuves, les faire a posteriori, enfin, qu'elle reconstruit l'événement, qu'elle le remet en scène, elle le met en scène et le remet en scène, et c'est saisissant.
En tant qu'écrivain, en tant que réalisateur, documentariste, est-ce que vous avez un regard différent maintenant que vous avez fait ces films sur cette période, sur des choses qui nous auraient peut-être échappé quand on regarde de manière plus globale ?
Faire des films, pour moi, c'est l'occasion de vérifier un peu des intuitions, puis de creuser et d'explorer des choses qu'on... J'étais fasciné comme ça depuis longtemps par le fait que sur les images des Jeux de 36, on voyait côte à côte le drapeau nazi et la bannière étoilée des États-Unis. Ça me paraissait complètement inconciliable. Et faire le film, ça permet de répondre à ce genre de questions, à ce genre d'énigmes. Et ça permet d'en savoir plus et de voir que la réalité, elle est toujours beaucoup plus surprenante que les idées simplistes ou les idées toutes faites qu'on peut avoir.
Alors à propos de ces nations qui se jouxtent, justement, il y a cette séquence magnifique où la flamme olympique arrive et qu'après le défilé des nations, des sportifs se succèdent, on voit déjà quand même les disparités entre les nations, c'est-à-dire par exemple les Suisses, c'est le lancer du drapeau, oui. C'est un petit côté pittoresque. Les Français, oui. Ils ont tous le béret, oui. Ils ont l'air un peu comme ça... bon enfant. On voit les Japonais qui marchent comme des robots. Enfin, vous mentionnez chaque différence culturelle. Ça, c'est aussi quand même intéressant de les voir dans une communion comme ça, mais en même temps, chacun a déjà son affirmation de la nation, de sa particularité.
Oui. Ben, c'est ce qu'on appelle le défilé des nations. Et j'ai eu la chance de pouvoir, en utilisant beaucoup de sources d'images différentes, et notamment des films amateurs, de reconstituer des moments importants comme le défilé des nations et des voilà où on voit les Britanniques, les Américains aussi, les Australiens, mais vous citiez les Français là, le passage des athlètes français a fait scandale, a fait sensation et scandale à la fois, parce que les athlètes français ont eu la bonne idée, enfin je dis ça avec beaucoup d'ironie, de faire le salut olympique, le salut de l'épée, quoi, voilà. Sauf que le salut olympique, que les autres équipes ne font pas, il ressemblait beaucoup, je pense pas que ce soit le même, mais il ressemblait beaucoup au salut nazi. Et donc ça a déchaîné une tempête d'applaudissements dans les gradins du stade, parce qu'on a pris ce salut pour un signe d'allégeance, en tout cas d'admiration à Hitler. Voilà. Et donc dans ce défilé des nations, c'est pour ça que je tenais à le montrer dans le film et à le raconter dans le livre, dans ce défilé des nations se jouent beaucoup de choses d'une manière pacifique, de ce qui va se jouer ensuite ultérieurement avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a voilà, on est dans l'arène du sport, dans l'arène pacifique, et on voit comment les gens de différents pays se comportent les uns par rapport aux autres.
Alors Jean Brière, vous mentionnez des films amateurs auxquels vous avez pu recourir. Comment avez-vous accès à ces films ?
Ben, les Allemands ont une grande culture technique, c'est-à-dire qu'ils ont très tôt utilisé beaucoup la photographie, les appareils photographiques, que, et très tôt utiliser des petites caméras de cinéma familial. Et par chance, en Allemagne, en Suisse, je ne sais pas très bien ce qu'il en est, mais en France, on a mis beaucoup de temps à s'apercevoir de la valeur historique comme ça, de ces images. Mais en Allemagne, il y a un certain nombre de cinémathèques privées qui ont senti très vite qu'il fallait garder, conserver, indexer ces documents et que ça pourrait servir. Et donc, grâce au travail d'un assistant formidable, d'un assistant documentaliste formidable, Antoine Doer, j'ai pu rassembler des images qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'a jamais utilisées, et qui permettent de raconter l'histoire des Jeux Olympiques, pas seulement pendant la quinzaine où ils se sont déroulés à l'été 1936, mais depuis 1933, depuis la préparation des épreuves. Donc on a un portrait à la fois des Jeux Olympiques, mais de l'Allemagne aussi, de l'Allemagne qui se construit, se reconstruit sous la férule des nazis à la faveur de ces Jeux Olympiques de 1936.
Alors, Jérôme Prieur, je vous rappelle que vous êtes ici pour cette drôle de paix de 18 à 39, mais il y a de nombreuses thématiques qui vous ont intéressé, l'Antiquité, le christianisme. Par rapport au christianisme, et la religion en général, c'est très actuel, puisqu'on assiste à des mouvements de plus en plus exacerbés. Vous avez aussi travaillé sur le Coran, à travers le fil conducteur de Jésus. Que pensez-vous actuellement de peut-être la mésinterprétation des écritures du Coran et les mouvements auxquels on assiste?
Je crois que le grand ennemi, c'est le fondamentalisme, c'est la lecture littérale, c'est la lecture intégriste. Quelle que soit la religion. Sachant que les religions monothéistes, elles ont une particularité, c'est que elles partagent le même Dieu, donc c'est difficile de partager le même Dieu. Ça veut dire que si on le partage avec d'autres, les autres sont dans l'erreur. Et si les autres sont dans l'erreur, c'est qu'on est soi-même dans la vérité. Et donc à partir du moment où on détient la vérité, où on croit détenir la vérité, l'esprit de tolérance qui doit nous animer tous, il a tendance facilement à disparaître. Et s'il disparaît, on peut assister aux pires horreurs qui se sont produites dans l'histoire et depuis longtemps. Je crois que la manière de lutter contre ça, c'est déjà de connaître son histoire, de connaître l'histoire des religions, de connaître l'histoire du christianisme, de connaître l'histoire du judaïsme, de connaître l'histoire de l'islam, et de s'apercevoir, en tout cas, c'est pour ça qu'avec Gérard Mandia, on a fait cette dernière série sur le Jésus et l'islam, et un livre, Jésus selon Mahomet, c'est de s'apercevoir qu'il y a des liens très étroits, beaucoup plus étroits qu'on ne le pense, entre judaïsme, christianisme et islam. Et donc, faire l'histoire de ces liens, de ces transformations, de ces conflits, de ces dialogues, de ces disputes, c'est un moyen, en réalité, si on le fait avec un peu d'intelligence et de culture, c'est un moyen de dédramatiser beaucoup des conflits qui s'enveniment à l'heure actuelle. Mais encore faut-il chercher cette intelligence, des textes.
Mais il y a une période dans l'histoire où les trois communautés religieuses communiaient ensemble, et surtout il y avait un échange, un vivier scientifique, littéraire, culturel, philosophique. C'était l'époque de l'arabo-andalousie, la Tolède arabo-musulmane.
Les époques de tolérance sont des époques où les religions mettent en avant la recherche d'une spiritualité, une culture commune, un goût des échanges, des apports respectifs des uns et des autres. À partir du moment où on cède à l'esprit de communautarisme, on s'enferme sur son propre territoire et on se met à haïr l'autre, puisque l'autre est considéré comme un envahisseur potentiel, un hérétique, un intrus, un traître, un renégat, un mécréant. Enfin bon. Alors, On connaît aujourd'hui, parce qu'on en est contemporain, quelques horreurs, quelques avanies de l'islam. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est une religion plus récente que le christianisme, et que dans l'histoire du christianisme, il y a un certain nombre de pages qui sont pas, qui vont durer longtemps, qui ne sont pas des plus glorieuses. Enfin, la page de l'Inquisition, la page des croisades, la page des guerres de religion entre catholiques et protestants, enfin, la persécution des protestants par les catholiques, qu'ils soient luthériens ou calvinistes, a été effroyable. Enfin, il faut essayer de regarder l'histoire avec des lunettes qui ont un peu de profondeur de champ et qui... Bon, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que il y ait de plus en plus, ça apparaît quand même, qu'il y ait de plus en plus de travail scientifique, de travail historique à l'intérieur de l'islam ou de la culture musulmane pour se pencher réellement sur l'histoire de cette religion toujours vivante. La preuve en est, c'est que quand avec Gérard Mandilla, on nous posait la question « Et maintenant, est-ce que vous allez faire quelque chose sur le Coran ?» On nous posait cette question il n'y a pas loin de 20 ans, et que nous disions en cœur non, parce que c'est pas notre culture, et non, parce qu'il n'y a pas de chercheurs qui seront capables de s'exprimer d'une manière critique sur l'histoire de l'islam. 20 ans plus tard, force est de constater que même si nous ne sommes toujours pas de culture musulmane, on a compris que Jésus était une espèce de chaînon manquant entre christianisme et islam.
Un prophète dans le Coran
et un prophète éminent, puisqu'il est le dernier prophète avant le prophète, qu'il est né d'une vierge, que Marie est un personnage, le seul personnage féminin nommé de tout le Coran. Et que donc elle a un rôle irremplaçable, unique, qu'aucun autre personnage dans le Coran n'a. Donc on s'est rendu compte de ça, mais on s'est rendu compte aussi que ce projet de série était viable dans la mesure où, à travers le monde, même s'il n'y en a pas beaucoup, et même s'il y en a très peu dans les pays musulmans, il y a des chercheurs de culture musulmane, je ne sais pas leur conviction, leur foi, ça c'est pas la question, mais qu'il y a il y a un certain nombre de chercheurs de culture musulmane qui travaillent sur l'histoire de l'islam aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, etc., etc. Et donc on peut parler de cette religion en faisant appel aux experts qui s'exprime de l'intérieur du monde islamique, parce que sinon ça avait aucun sens de faire une série comme ça uniquement avec des chercheurs qui seraient venus d'autres horizons.
Et par rapport au mouvement de plus en plus populistes qui apparaissent de tous côtés, on voit la Pologne, la Hongrie, maintenant récemment bien sûr le Brésil, est-ce que vous pensez qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé dans ce laps de temps qui est traité par Pessac cette année?
Écoutez, je sais pas, quand je présentais certains films sur cette période récemment, j'avais la sensation que le passé récent nous faisait froid dans le dos. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que cette histoire passée ne nous fait pas seulement froid dans le dos, qu'elle est devant nos yeux, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors bien sûr, l'histoire se répète pas exactement pareil. La composante nationaliste, elle est moins exacerbée qu'elle ne l'a été après la guerre de 14. Mais il y a des ingrédients et des effets et des formes qui sont quand même très comparables. La méfiance à l'égard des institutions parlementaires, la méfiance à l'égard de la presse, l'espèce de sentiment de désespoir général, de coupure, de fossé entre les élites, entre guillemets, et le peuple, le fait qu'on n'est plus entendu, plus écouté, le hiatus extraordinaire de niveau de vie entre les plus riches et les plus pauvres.
Les fossés qui se creusent.
Les fossés se creusent et donc peuvent reconduire aux mêmes effets, au même désespoir. C'est moi ce qui m'a frappé en faisant le film qui s'appelle Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, ce qui m'a frappé, c'est de voir que on essaye Hitler. Il n'y a pas d'engouement nécessairement de la société allemande dans son entier pour Hitler, mais qu'on l'essaye, on essaye cette formule en se disant bon, on n'a rien à perdre, on a vu tellement d'hommes politiques qui se sont cassés la figure, pourquoi pas lui, ou en se disant ben, on va en être débarrassé à tout jamais parce qu'une fois au pouvoir, il va faire la preuve de son incapacité à gouverner. Voilà. Et puis on voit ce que ça donne, c'est-à-dire qu'ensuite, une fois au pouvoir, ces gens-là s'installent, s'incrustent, utilisent tous les moyens en leur possession pour faire disparaître la démocratie et pour régner sans partage pendant longtemps. Alors, Hitler, ça n'a pas duré trop longtemps, mais avec des effets monstrueux, abominables. Ça a duré 12 ans. Mais on peut imaginer des formes moins terrifiantes, moins violentes de dictature qui pourraient durer plus longtemps. Et ça fait très, 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 très peur. Et donc, je pense que ces films, ils ont une vertu de mise en alerte, enfin. Ils nous disent, regardez le passé. Le passé, il n'est pas uniquement dans le passé. Le passé, il est dans le présent. Il nous regarde, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Comment nous comportons-nous? Enfin, c'est ça qui m'intéresse dans les films d'histoire.
Alors, Jean Brieur, je vais vous laisser parce que vous nous avez beaucoup accordé de votre temps. Juste deux dernières questions. Est-ce que vous allez nous dire vers quel horizon vous partez maintenant? Quel sujet? Et quelle est votre relation avec la Suisse, en particulier la Suisse romande?
Ah ben, la Suisse romande, j'ai montré beaucoup de mes films à Genève et à Lausanne.
Vous étiez récemment à l'EPFL?
J'étais à l'école polytechnique, mais de Zurich, pas à Lausanne, comme professeur invité. Donc j'ai participé à beaucoup d'émissions de la radio suisse romande. J'ai fait des films sur des écrivains romans ou suisses ou genevois. Je citerai comment?
Rousseau.
Non, mais vivant, enfin Jean Starobinski, Philippe Jacotet, Maurice Chappat, Georges Borgeau, voilà. Donc j'ai un attachement personnel à ce pays. Quant à mes projets, ben, je viens de publier, là, il y a un mois maintenant, un livre sur une obsession, vraiment une vraie obsession d'enfance, qui est une obsession pour la guerre de 14. Et ce livre s'appelle « La moustache du soldat inconnu », aux éditions du Seuil, qui est un peu un titre provocateur et paradoxal, parce qu'en réalité, dans ce livre, je cherche, à travers des objets, des souvenirs, des morceaux de témoignages, des photos, un film amateur tourné en 1915, je cherche à retrouver la trace de ces soldats inconnus. C'est pas le soldat inconnu qui m'intéresse, mais de tous ces soldats dont la vie a été gâchée et dont le nom même a été oublié. Et je cherche à les ramener à la vie, quoi, d'une certaine façon. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec ce livre qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Qui n'est pas un livre de circonstances, même si on a célébré, commémoré récemment le centenaire de l'armistice de 1918. C'est quelque chose que j'ai toujours eu la volonté en moi d'écrire depuis mon enfance. Alors heureusement, ce livre, je ne l'ai pas écrit enfant. J'ai pris des notes, j'ai commencé à l'écrire à ce moment-là. Mais donc c'est tout le résultat d'une réflexion intérieure, d'une rêverie sur le sort et le destin de ces jeunes gens.
Et à propos des commémorations, on a un petit peu occulté de se rappeler les tirailleurs sénégalais. Entre autres, c'était pas que des Sénégalais, il y avait les Nord-Africains, les Malgaches, les Camerounais, les Burkinabés, à l'époque la Haute-Volta. On les a un petit peu occultés des commémorations.
Oui, on les a occupés des commémorations parce qu'il y a quand même... les chiffres sont parlants. Hein, il y a eu à peu près 500 000 soldats ou ouvriers, parce qu'il y a les soldats des troupes africaines, mais il y a aussi les ouvriers engagés en Chine, en Indochine, et tout ça, qui sont venus travailler en France parce qu'on manquait de main-d'œuvre, et parmi lesquels il y a eu beaucoup de morts parce que les champs de bataille... y compris après la fin de la guerre, restent toujours truffés de substances explosives. Donc il y a eu une contribution terrible de ces de ces personnes qui sont des oubliés. Parmi les oubliés, il y en a d'autres qui sont plus oubliés, ça c'est certain.
Merci Jérôme Prieur.
Merci.